opposé à l'accord de Bougival et à l'accord Élysée-Oudinot. Il a publié un communiqué pour expliquer sa position. Faire connaître les métiers du nickel et leur importance, le syndicat des industries de la mine lance une grande campagne de communication. Après l'attaque de requins mortels dimanche, la province sud et la mairie de Nouméa lancent une campagne de prélèvement. Ensemble pour la planète dépose un nouveau recours. Tension diplomatique entre Paris et Washington. Convoqué au Quai d'Orsay, l'ambassadeur américain en France ne s'est pas présenté au rendez-vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le miel calédonien brille dans les concours nationaux. Plusieurs apiculteurs ont remporté des médailles lors d'un concours de miel en France 2026 au début du mois. Nous reviendrons sur ce concours et sur la qualité de la production calédonienne avec plusieurs professionnels primés dans notre magazine citoyen juste à la fin de ce journal. Nous serons en compagnie de Caroline Fèvre du Rucher Sauvage de Dumbéa, de Gwenaël et Agnès Le Sauce pour le Vieux Sage de Boulou Paris, de Patrick Leblanc des Trésors de l'île à Lifou et de Romain Guette, responsable du Centre d'apiculture de Nouvelle-Calédonie. Rendez-vous donc pour parler miel dans le magazine citoyen dès la fin de ce journal. C'est à 14h30 à Paris, il sera minuit 30 la nuit prochaine pour nous, que le Sénat commencera l'examen du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie. Le texte qui vise à inscrire dans la Constitution l'accord de Bougival et son accord complémentaire Élysée-Oudinot a reçu un avis favorable de la Commission des lois du Sénat. Dans la perspective de la séance publique, 24 amendements ont été déposés ainsi qu'une motion d'irrecevabilité et une motion de rejet. C'est à la veille de ce passage du projet de loi constitutionnelle devant le Sénat que Paul Néaoutine a rendu publique son opposition totale aux accords de Bougival et d'Élysée-Oudinot. Elisabeth Noir.
Une interview dans le journal Le Monde et un communiqué. Le leader historique du Palais-Quai est sorti du silence pour exprimer clairement sa position, alors que ses déclarations précédentes étaient pour le moins confuses et sujettes à interprétation. Cette fois-ci, Paul Néaoutine y va franchement et il dit tout le mal qu'il pense de ces accords. Son communiqué commence ainsi. Je réitère publiquement et clairement, comme je l'ai fait dans le quotidien Le Monde, mon opposition aux accords de Bougival qui officialise un fédéralisme interne et externe, ouvre la voie à la partition du pays, marque une rupture et un recul par rapport à l'accord de Nouméa et ferme la porte à la pleine souveraineté, base sur laquelle des partenariats peuvent ensuite être négociés. C'est donc un rejet en bloc de l'accord de Bougival et de l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. Dans ce communiqué, Paul Néaoutine rappelle qu'il a obtenu de Jacques Chirac le gel du corps électoral qui est aujourd'hui rendu glissant par les négociateurs des accords de Bougival et Élysée-Oudinot. Il affirme aussi que ces accords ne conduisent pas à la pleine souveraineté, mais qu'ils ancrent notre pays dans l'ensemble français de façon pérenne. Pour lui, la création d'un État de la Nouvelle-Calédonie inclus dans la France est aux antipodes de la pleine souveraineté. Il balaie aussi la sous-nationalité calédonienne subalterne que l'on peut perdre si l'on renonce à la nationalité française. Et il affirme ne pas voir de continuité entre les accords de Bougival, Élysée-Oudinot et l'accord de Nouméa. Paul Néaoutine s'en prend également au transfert des relations extérieures à la Nouvelle-Calédonie qui s'inscrit selon lui dans la limite des intérêts stratégiques de la France. Il s'en prend également aux multiples verrous mis au reste des transferts de compétences. Il critique enfin violemment le chapitre sur l'attractivité économique en déclarant que le Palika et l'UNI ont toujours combattu la volonté des non-indépendantistes d'en finir avec la clé de répartition et que l'attribution de la compétence fiscale poserait les fondations de l'hyper-provincialisation et de la partition du pays.
Et on retient aussi un aveu concernant le corps électoral dans ce communiqué de Paul Néaoutine.
C'est un aveu de taille, puisque Paul Néaoutine écrit « Je rappelle que j'ai négocié au nom du FLNKS et obtenu de Jacques Chirac en 2003 à Koné que soit inscrit à l'ordre du jour du Congrès de Versailles le gel du corps électoral. » Et c'est une précision essentielle qui vient confirmer ce que l'on savait déjà, que le gel du corps électoral n'était pas prévu dans l'accord de Nouméa signé en 98, mais qu'il est le résultat d'une négociation entre les indépendantistes et l'État. On le savait et on se souvient des circonstances dans lesquelles cela avait été négocié à Koné, en marge d'une visite de Jacques Chirac, alors président de la République. Mais cet aveu de Paul Néaoutine remet en cause la théorie défendue par les indépendantistes, selon laquelle le gel du corps électoral était acquis dès 1998. Il donne raison à l'inverse aux partisans de la France, qui affirment que c'était, pour reprendre une expression à la mode, un passage en force de l'État et une décision unilatérale qui n'était absolument pas consensuelle. Paul Néaoutine conteste aujourd'hui le fait que l'accord de Bougival rende glissant le corps électoral, mais c'est oublier aussi que le gel de ce corps électoral qu'il revendique aujourd'hui, qu'il reconnaît avoir négocié avec l'État en 2003 et qui a finalement été imposé en 2007 contre l'avis des partisans de la France, était de toute façon transitoire.
Et une question se pose, Elisabeth, quelles conséquences peut avoir cette prise de position de Paul Néaoutin ?
Difficile de savoir aujourd'hui les effets de cette charge très violente de la part du président de la province Nord contre l'accord de Bougival et l'accord Élysée-Oudinot. Mais elle fragilise clairement les négociateurs de l'UNI, alors que Jean-Pierre Diaoué nous disait vendredi dans Transparence avoir échangé sur le sujet avec Paul Néaoutin et que celui-ci ne s'était jamais opposé à Bougival. Ce rejet de la part du président de la province Nord conforte les opposants indépendantistes à Bougival. Il va aussi donner des arguments aux socialistes qui étaient un peu embarrassés par les divergences entre l'UC et l'UNI. Et puis on relève que parallèlement à cette prise de position sans concession de Paul Néaoutin, Philippe Gomez publie lui aussi un texte très violent sur les accords de Bougival, Élysée, Oudinot. Il constitue selon lui une impasse parlementaire et une impasse politique.
C'est nickel, c'est le nom de la campagne de communication lancée par le syndicat des industries de la mine, le CIM. Les acteurs de la filière comptent ainsi mieux faire connaître leur métier et l'importance du nickel en Nouvelle-Calédonie, mais aussi son impact. L'objectif affiché, c'est de mettre fin aux idées reçues et de tordre le cou aux fausses informations. Gabriel Ben-Simon est le président par intérim du CIM.
Le nickel est un pilier pour l'économie calédonienne, aussi bien pour l'emploi en termes de volume que de bassin d'activité, mais également dans les contributions fiscales. Et face à ce pilier, on a aujourd'hui une vision d'opacité de la filière, de complexité. On a des idées reçues, des informations erronées, voire même de la désinformation. C'est un sujet qui est souvent très polarisé et ce qu'on souhaitait, c'est atténuer cette dichotomie, si ce n'est pas y mettre fin, en présentant des éléments factuels au grand public et en les mettant à disposition de toute la population via la plateforme que nous allons mettre en place dès aujourd'hui, www.cnickel.nc.
La profession va donc publier des données issues des recherches en Nouvelle-Calédonie, mais aussi au niveau mondial, une information objective.
C'est la profession qui va mettre à disposition ces informations. Alors pourquoi la profession ? C'est parce qu'on a des bases de données, aussi bien en local à l'international, très structurées, que l'on consolide et que l'on va rendre assez accessibles. Effectivement, des personnes pourront nous dire cette information n'est pas neutre parce qu'il est mis à disposition par les industriels. Je vous invite à aller la consulter, à voir son contenu et de vous en faire une idée par vous-même. L'idée n'est pas de s'initier dans le débat, mais de donner de l'information pour en débattre en extérieur et que chacun puisse se forger sa propre opinion.
Cette campagne C'est Nickel va se présenter sous différents formats pour toucher un public large tout au long de l'année.
Nous avons choisi deux formes de support. La première sont des capsules vidéo de petits formats d'environ 2 minutes pour être diffusées. Nous allons ici faire des fiches pédagogiques pour les personnes qui veulent aller plus dans le détail de cette information pour pouvoir travailler avec. Donc nous avons une orientation grand public, mais aussi une orientation plus professionnelle pour que les personnes puissent s'appuyer sur ces supports qui se veulent avant tout pédagogiques.
Les professionnels ont identifié 13 thématiques qui font l'objet d'une ou deux capsules vidéo de 2 minutes environ en fonction de la densité d'informations à communiquer.
C'est du nickel dans notre sol, mais comment il s'est formé ? Donc la genèse du nickel en Nouvelle-Calédonie, quel volume de ressources ou de réserves dont nous disposons ? Comment nous l'extrayons ? Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des usines pyrométallurgiques et hydrométallurgiques en Nouvelle-Calédonie, donc pour expliquer leurs procédés, aussi à quoi sert le nickel, dans quel élément on le retrouve tous les jours. Et suite à cette première campagne, on va voir aussi le retour d'expérience, les attendus du public pour voir comment on pourra adresser d'autres messages par la suite.
Gabriel Ben-Simon, le président par intérim du CIM. Les clips et les fiches de système sont disponibles à partir d'aujourd'hui sur le site cnickel.nc et seront diffusés tout au long de l'année. Dans un instant, la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, notamment les faits divers, mais aussi le début de la campagne de prélèvement des requins au large de Nouméa.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'équipe de Maridé est là pour vous offrir une journée de détente. Réservez votre place sur amedeisland.com. Besoin de chaussures ou de vêtements de sport ? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
RRB, 11h-13h. Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie et les faits divers. Trois individus de 19 ans ont été jugés aujourd'hui à Nouméa pour des faits de violence aggravée commises le 11 février dernier. C'était vers 18h30 dans le quartier de Caméré, route des Trois Dames, Léana Colombo.
Quatre individus en état d'ivresse s'en sont pris aux boîtes aux lettres ainsi qu'au portail d'une habitation. La belle-fille d'une des victimes est alors sortie pour demander des explications aux perturbateurs, mais a été prise à partie et insultée. Son compagnon est ensuite intervenu. Il a été violemment frappé au niveau de la tête avec une pierre, ce qui a provoqué sa chute au sol et une perte de connaissance. La mère du concubin venue s'interposer a été frappée à la tête. Le père de famille et propriétaire de la maison a reçu un violent coup au moyen d'une enceinte portable, tandis que sa belle-fille a été atteinte d'un coup de poing au visage. Les agresseurs ont ensuite pris la fuite en direction de Logicop. Les blessures du père de famille ont entraîné 21 jours d'incapacité totale de travail. Les autres victimes présentent des ITT de 5 à 7 jours. Les victimes ont également déclaré avoir subi des insultes à caractère racial lors de l'agression. Après enquête, les auteurs des faits ont été arrêtés le 19 février à 6h du matin. Trois d'entre eux ont reconnu les faits. Le quatrième a été mis hors de cause. L'audience était prévue à 8h ce matin.
Et puis toujours au chapitre justice, Léana, le procureur de la République indique que des enquêtes sont actuellement conduites après des signalements du haut-commissaire Jacques Billan pour des faits de provocation à la haine ou à la violence en ligne et des menaces proférées à l'encontre d'élus.
Le 17 février, un Nouméen de 26 ans a été condamné à 140 heures de travail d'intérêt général pour des faits de menaces de mort ou d'atteinte aux biens commis le 27 septembre 2025 à l'encontre du député Nicolas Metzdorf. Une personne domiciliée dans le département de la Charente est poursuivie pour des menaces de mort à l'encontre de Nicolas Metzdorf. Enfin, un autre individu domicilié en Mayenne fait l'objet d'une enquête en métropole pour un message posté à propos de Victor Tutugoro. Je cite « Si la France te félicite, c'est que tu as trahi ton peuple. Les collabos savent ce qui les attend. Ces menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes sont punies de la peine de 5 ans d'emprisonnement, mais aussi d'une amende de 75 000 euros. »
Amarré après le cambriolage et les dégradations constatées au guichet d'Air Calédonie à La Roche, on a appris ce matin que les locaux d'Enercal et du Betitcho avaient également été cambriolés, Léo Fichou.
Oui, les faits remontent à jeudi soir. Plusieurs individus auraient fracturé les portes de l'ancienne mairie qui sert désormais de bureau loué par la commune aux fournisseurs d'électricité et à la compagnie maritime. Des plaintes ont été déposées par la mairie mais aussi par les sociétés concernées. Une enquête est donc en cours pour faire la lumière sur ces actes et à ce stade, aucune interpellation n'a eu lieu. Des faits similaires ont été constatés à Ouvéa où les locaux d'Enercal ont eux aussi été la cible de dégradation et de vol de matériel. Enfin, on signalera que pendant les vacances scolaires, des haut-parleurs ont été dérobés au collège de La Roche à Marais.
L'IFO est également confronté depuis le début de l'année à plusieurs faits de délinquance. Des cambriolages et des dégradations ont également été commis pendant les vacances scolaires. Les investigations ont permis d'élucider plusieurs affaires. Un vol avec effraction dans le local du Betitcho, un vol en réunion dans un restaurant et des dégradations dans les écoles de Melek et de Tchepenehe. Trois individus impliqués dans l'un des cambriolages ont été identifiés, interpellés et entendus. Ils ont reconnu leur participation aux faits et sont désormais convoqués devant la justice.
RRB, il est 11h43.
La province sud et la ville de Nouméa ont annoncé hier une campagne de prélèvement de requins tigres et requins bulldogs a débuté aujourd'hui. Et l'association environnementale Ensemble pour la planète réagit. Sa présidente annonce déposer un recours devant le tribunal administratif, Charlotte Coulson.
C'est un accident qui a fait la une ce début de semaine. Un wing foiler est décédé ce week-end, vraisemblablement attaqué par un requin alors qu'il pratiquait au large de Lansvata. Cet événement tragique a remis la problématique du risque requin sur le devant de la scène. Très vite, la province sud et la ville de Nouméa ont réagi en annonçant relancer une campagne de prélèvement ciblée. La dernière remontée à 2023 après la mort d'un touriste australien devant la plage du Château Royal et plusieurs autres attaques dans le secteur. Des campagnes successives avaient été organisées mais stoppées en septembre 2023 sur décision de justice. C'est l'association Ensemble pour la planète qui jugeait cette décision politique irresponsable sur un plan environnemental, qui avait déposé un recours devant les tribunaux administratifs. Elle avait obtenu gain de cause. Le juge des référés avait pointé l'absence d'études scientifiques précises sur la population de requins. Jugement ensuite confirmé en appel. Hier, les collectivités ont dit, malgré les risques de sanctions, vouloir prendre leurs responsabilités pour protéger les usagers du lagon. La campagne a donc débuté ce matin. Elle devrait se poursuivre jusqu'au 4 mars inclus. En attendant, la baignade et les activités nautiques sont interdites sur la bande littorale de 300 mètres de Nouméa. La présidente de l'association Ensemble pour la planète a annoncé déposer un nouveau recours devant le tribunal administratif.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est lors de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. La province sud et la mairie de Nouméa ont-elles raison, selon vous, de reprendre les prélèvements de requins tigres et bulldogs après la mort d'un véliplanchiste victime d'une attaque de requins? Si vous pensez qu'elles ont raison, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 71% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la Chambre de l'agriculture a eu raison de maintenir un déplacement au Salon de l'agriculture à Paris, malgré la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont 29% à être d'un avis contraire. La météo avec une baisse d'activité de l'épisode orageux sur le territoire. Pour autant, Léana, les précipitations se maintiennent par endroits et plusieurs communes sont encore en vigilance forte pluie orage.
Oui, 18 communes sont encore concernées par une vigilance orange forte pluie orage. Les autres sont en vigilance jaune, c'est-à-dire toute la partie nord de la Calédonie, Bélep, les Loyautés et l'île des Pins. Et même si l'activité orageuse sera moins fréquente que ces deux derniers jours, des épisodes intenses pourront encore avoir lieu au cours de la journée, confirme Claude Van Rooyen, chef prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
On reste encore aujourd'hui et pendant une partie de la nuit dans une zone qui reste instable avec des orages qui deviennent plus isolés, moins fréquents que sur les deux précédents jours, mais avec une instabilité qui reste encore marquée. Ça ne sera qu'en fin de nuit, voire demain, où l'activité orageuse va baisser sensiblement. Mais on restera dans l'air chaud et humide avec notamment en journée, à proximité des reliefs demain, où une petite cellule convective orageuse ne peut pas être complètement exclue. Maintenant, ce sera des conséquences qui seront plus limitées en termes de durée et donc en termes de cumul de pluie. Donc on va vers une amélioration progressive, en tout cas pour demain.
Je rappelle qu'un minimum dépressionnaire se creusant à proximité du Vanuatu pourrait de nouveau dégrader les conditions météo sur le territoire pendant le week-end.
Cette mauvaise météo a des conséquences dans certaines communes. C'est le cas notamment sur les transports scolaires en brousse.
À Poya, la mairie annonce qu'en raison de la montée des eaux, le service de transport scolaire n'a pas pu être assuré ce matin. Les élèves des tribus concernées ont été évacués et pris en charge par les établissements à proximité. À Pointe-d'Imier, le transport scolaire a également été annulé pour la journée. Les écoles restent toutefois ouvertes. À Ponérioin, les écoles, elles, ont été fermées par précaution. Sur la route, prudence sur les routes du côté de Wailou où des éboulements ont été signalés. À Bouraille, la RT1, la RT3 et les axes secondaires sont praticables avec vigilance. Le pont de la Saoui est immergé et les ponts Brésil et Pantaloni sont déconseillés. Les sites du parc provincial de la Rivière Bleue et des chutes de la Madeleine sont fermés jusqu'à ce vendredi 27 février. La réouverture ce week-end se fera en fonction des conditions météo. Et à Dumbéa, le parc provincial et les axes des radiers, des charbonniers et du Carigou sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Attention également à Païta où plusieurs radiers ont été submergés.
Un soutien financier pour les TPE et les PME de la province sud. Le dispositif Sud Relance a démarré hier. Il prend la forme de prêts accordés sans exigence de garantie et à un taux inférieur à celui du marché. Il est rendu possible grâce à un partenariat avec la BPI France, nous a dit Charlène Gauthier. C'est la directrice adjointe de la Direction du développement économique et touristique de la province sud. Elle était ce matin notre invitée.
Lorsque la province sud va mettre un franc, BPI France va mettre 2,4 francs et ensuite cela sera adossé à un apport en fonds propres de l'entreprise ou un crédit bancaire de l'équivalent de 3,4 francs, donc de 6,8 francs au total. Alors pour essayer d'être simple, c'est en fait l'impact public, il est multiplié par 6,8 francs puisque quand la province sud va injecter 1 milliard de francs, on va pouvoir avoir un effet de 6,8 milliards injectés dans l'économie.
Sud Relance cible les TPE et les PME qui ont au moins 3 ans d'existence. Le montant des prêts accordés oscille entre 6 millions et 36 millions sur une durée de 5 ou 7 ans. L'objectif est donc de soutenir la reprise économique en permettant à ces entreprises de soulager leur trésorerie.
Donc les dépenses qui seront éligibles, entre guillemets, et tous les dossiers sont instruits par BPI France. Ce sont tout ce qui est les stocks, tout ce qui est l'achat de matériel, mais il faudra vérifier lequel, la mise aux normes, la formation, tout ce qui est investissement immatériel. Ce prêt Sud Relance va permettre justement de pouvoir dégager de la trésorerie pour pouvoir investir ailleurs et que la relance puisse se faire.
Et pour les entrepreneurs intéressés, ils peuvent contacter directement BPI France ou bien leur établissement bancaire. Une adresse générique a été créée, sudrelancebpi@bpifrance.fr, sudrelancebpi@bpifrance.fr. Pour toutes les questions, vous pouvez aussi contacter la direction des affaires économiques et touristiques de la province sud. Il est 11h et bientôt 51 minutes. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde. Nous commencerons par évoquer ces tensions diplomatiques entre Paris et Washington.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Oh, mais ils ont vraiment décidé de gâcher notre barbecue, hein ? Ils se sont donné le mot ou quoi ?
Relax, c'est justement pour ça que j'ai pensé à Vape, l'anti-moustique qui marche vraiment.
Ah, le silence, c'est magique. Les tortillons aux prises anti-moustique Vape, disponibles dès maintenant en magasin.
Votre tranquillité d'esprit avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal, l'actualité en métropole et dans le monde avec Jean-François Bodin.
La tension diplomatique est montée d'un cran entre Paris et Washington après les commentaires de l'administration Trump sur la mort du jeune Quentin et les dangers de la violence des groupes d'ultra-gauche en France. L'ambassadeur des États-Unis était convoqué au Quai d'Orsay, mais Charles Kushner ne s'est pas présenté au rendez-vous. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Charles Kushner sèche sa convocation et se fait représenter au Quai d'Orsay en faisant valoir des engagements personnels. Paris parle d'incompréhension des règles élémentaires. Réaction immédiate, le ministre des Affaires étrangères demande que l'ambassadeur américain ne puisse plus accéder directement aux membres du gouvernement français. Un signal politique autant que diplomatique. La France maintient la pression après les commentaires américains sur le meurtre de Quentin Derenque. Des propos jugés à Paris intrusifs, voire instrumentalisés. Le Quai d'Orsay laisse toutefois une porte ouverte. L'ambassadeur peut encore exercer sa mission et se présenter pour des échanges destinés à aplanir les irritants, en creux de lecture, affirmation d'autorité, mais aussi risque d'escalade symbolique avec un allié historique, une relation d'amitié vieille de 250 ans, rappelle d'ailleurs Paris. Message de fermeté tempéré par un appel au dialogue.
Le lynchage à mort de Quentin continue de secouer la classe politique et la proximité des liens entre la France insoumise et la Jeune Garde, dont plusieurs membres sont mis directement en cause dans cette affaire, continue de faire parler. Mais Jean-Luc Mélenchon, qui tenait une conférence de presse, justifie. Le leader de la France insoumise se pose même encore une fois en victime, Alexis de La Fontaine.
Jean-Luc Mélenchon dit être censuré par les médias, notamment quand il accuse Quentin d'être responsable de l'affrontement qui a causé sa mort.
Il est impossible de dire qu'il préparait un traquenard contre d'autres et que c'est un néo-nazi.
Ces accusations sont évidemment fausses et contestées par la famille du jeune Quentin, qui se réserve le droit de porter plainte contre l'ancien candidat à la présidentielle. Ensuite, dans le cadre de l'enquête judiciaire et des liens avérés entre la Jeune Garde et la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon justifie cette proximité en assurant se sentir en danger.
Nous n'annulerons aucune de nos réunions. Et comme la police n'assure aucune protection, en dépit de toutes nos alertes, de toutes nos interventions, eh bien, nous assurons nous-mêmes notre autoprotection par notre service d'ordre.
En réalité, depuis qu'Olivier Faure, le patron des socialistes, a réaffirmé sa volonté de s'allier avec la France insoumise au second tour des municipales, Jean-Luc Mélenchon sait qu'il peut maintenir sa stratégie de brutalisation de la vie politique sans être exclu de l'arc républicain.
Mais toujours en métropole, l'examen du projet de loi sur la fin de vie se poursuit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et comme il le redoutait, les opposants au texte sur l'aide à mourir voient les garde-fous tomber un à un. Les amendements déposés par les députés LR ou RN pour encadrer cette aide sont systématiquement rejetés par les autres groupes politiques. Écoutez le député RN du Bas-Rhin, Patrick Herzel.
Lorsque l'on essaye de mettre en place un certain nombre de garde-fous, vous y êtes également hostile. Vous êtes dans une logique qui est totalement bloquée. Aucun amendement ne passe. Aujourd'hui, ce texte est extrêmement libéral et à aucun moment les garanties indispensables ne sont réunies.
Et l'examen de ce projet de loi sur la fin de vie devrait prendre du retard puisqu'il reste encore une centaine d'amendements à examiner. Un mot de l'actualité à l'étranger avec cette flambée de violence au Mexique. L'armée a mené une vaste offensive dans laquelle elle a tué El Mencho, un baron de la drogue. S'en est suivie une vague de violence qui a touché plusieurs États mexicains, dont celui dans lequel vivait El Mencho. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu en pleine rue et à l'arme lourde. Le bilan est lourd. Écoutez le secrétaire à la sécurité du Mexique.
Dans l'état de Jalisco, nous avons enregistré 6 attaques, dans lesquelles malheureusement 25 agents de la garde nationale et un membre du bureau du procureur général de l'état ont perdu la vie. Aux mains de ces lâches délinquants, une femme aussi a perdu la vie. Enfin, 30 délinquants des cartels ont aussi perdu la vie durant ces attaques.
Et des renforts ont été déployés. Ce sont actuellement 10 000 soldats qui ont été positionnés sur le terrain. 11h56, la dernière page de ce journal consacrée à l'actualité sportive. Et ensuite, ce sera le magazine citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Tentez votre chance au grand jeu La Niçoise. Jusqu'au 15 mars, La Niçoise vous régale toute l'année. À gagner un an, un mois ou une semaine de repas pour deux personnes. Incroyable! Si vous êtes déjà client, vous avez deux fois plus de chances de gagner au tirage au sort. Jouez sur la page Facebook La Niçoise. Jeu gratuit et sans obligation d'achat. La Niçoise prend soin de vous.
Grande nouvelle pour le Nord. Decathlon ouvre à Coney. Votre nouveau magasin Decathlon Coney ouvre ses portes juste à côté de Stop Affaires. Un bel espace dédié aux textiles, chaussures, équipements sport et loisirs pour toute la famille, au meilleur rapport qualité-prix. Venez vite le découvrir. On vous attend nombreux.
Ça bouge aux occasions du village automobile. Découvrez notre tout nouveau parking d'occasion avec plus de 200 véhicules contrôlés, garantis au meilleur prix. Pick-up, SUV, citadine, bon plan prêt à partir. Faites le choix gagnant aujourd'hui. Et pour les véhicules neufs, c'est aussi au village automobile. Avec 11 grandes marques et des remises spéciales rentrées exceptionnelles. Véhicules neufs ou d'occasion, une seule adresse. Le village automobile, OPK4 à Nouméa. Offre valable du 23 février au 10 mars. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal Le Sport avec Jean-François Baudin.
Oui, le sport, et on va commencer avec les Jeux Olympiques d'hiver et ce moment de totale communion. Albertville a fêté le grand retour des héros tricolores, une fête qui a aussi tracé la route vers 2030 et les Jeux dans les Alpes françaises, Léo Fichou.
Oui, la délégation tricolore était de retour après des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, plus que réussi, hein, je le rappelle, 23 médailles, c'est un record. Albertville, tout un symbole, lieu des derniers JO d'hiver en France en 1992. Beaucoup de sourires, beaucoup d'émotions, une communion avec les athlètes médaillés, mais pas que, puisqu'ils étaient 70 athlètes présents. Edgar Groupiron, président du comité Alpes 2030, a apprécié le moment.
C'est magnifique d'être ici, on est content de voir ce drapeau olympique. On l'a récupéré hier soir à Vérone, à l'occasion de la cérémonie de clôture. On a eu un show aussi assez extraordinaire avec une magnifique Marseillaise. Et puis après, un film avec un grain cinématographique, une créativité que moi j'ai vraiment adoré. Il est à Albertville. Albertville, c'est la dernière fois qu'on a organisé les Jeux en France. Et donc c'est ici qu'on redémarre l'histoire pour 2030. C'est juste une magnifique aventure.
De son côté, Amélie Oudéa-Castéra, présidente du CNOSF, a souligné le retour de la passion française pour l'olympisme. Les JO 2030 qui auront lieu dans les Alpes françaises, donc au Grand Bornand, La Clusaz, La Plagne ou encore Serre-Chevalier et Nice.
On va parler rugby et le staff de l'équipe de France a dévoilé la liste des 19 joueurs « protégés » entre guillemets. En vue du prochain match du tournoi des Six Nations, ce sera face à l'Écosse le 8 mars prochain.
Ces 19 joueurs bénéficient d'une semaine de repos. Ils sont donc dispensés de la 18e journée de top 14 programmée ce week-end. Dans cette liste, on retrouve 12 avant, notamment Emmanuel Méafou, homme du match contre l'Italie, Julien Marchand, Charles Olivon, Mickaël Guillard ou encore le Calédonien Rodrigue Néti, mais aussi 7 arrières comme Antoine Dupont, Louis Biel-Biarré, Mathieu Jalibert, Théo Atissogbe ou encore Thomas Ramos. Une semaine de repos bien méritée après les trois premières journées du tournoi des Six Nations face à l'Irlande, le Pays de Galles et l'Italie. Trois victoires pour les Bleus. Les joueurs seront tout de même convoqués dès lundi à Marcoussis pour préparer le 4e match décisif contre l'Écosse. Ce sera le 8 match, vous l'avez dit. Pour rappel, en cas de victoire bonifiée, le 15 de France remportera déjà la compétition.
Un mot de football dans la région pour terminer avec la 8e journée de l'OFC Pro League. On continue de suivre les performances de nos Calédoniens Joseph Attalé, Germain Aguéwene, Potin Poma avec le Tahiti United. Ils affronteront à 19h les Australiens de South Melbourne. Une rencontre à suivre sur la plateforme de la FIFA. Il est midi dans quelques secondes. Merci de rester avec nous. Le journal est terminé, mais dans un instant, nous allons parler du miel en Calédonie avec nos invités dans le cadre du magazine citoyen. À tout de suite.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.